Comment ça on parle trop vite aujourd'hui? Mais pourquoi ne faut-il pas parler trop vite, tiens, ou trop haut, ou trop fort? Pourquoi cette méfiance envers ceux qui parlent trop, ou qui parlent tout court d'ailleurs? À l'heure de la sagesse des sept tours de langue, avant de parler, moi je milite pour le langage et sa jouissance illimitée, celui qui fuse, qui jaillit, qui pique, qui s'élève, celui qui vit et qui va vite, celui qui fonce quitte à se fracasser, le langage qui fait le pari, au pire, de la folie, au mieux, du mot d'esprit. Et je pense aux comédies loufoques de l'Amérique des années 30 ou du début des années 40, ces screwball comedies, comme on les appelait, qui reposaient justement sur la vitesse du langage. Je pense à Capra, à Lou Beach, à George Cukor, mais aussi peut-être surtout à Claudette Colbert et à toutes ces actrices qu'on reconnaissait justement à la rapidité, la fluidité, le rythme insensé de leur diction. Les Katharine Hepburn, les Rosalind Russell et autres Jean Arthur, ces grandes dames du parlant qui parlaient à toute berzingue justement, follement, furieusement, facétieusement. Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que le cinéma parlant a permis de leur donner voix au chapitre. Une voix pour dire tout haut, tout fort, les rêves et les désirs qu'elles ne pouvaient ailleurs exprimer. Parler trop vite, trop fort, parler trop, qu'on se le dise, c'est un gage de liberté.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui a un sens du rythme bien à lui. En 52 ans, il a réalisé 8 longs métrages qui ont marqué le cinéma français. De La Vie de Château au Hussard sur le Toit, en passant par Le Sauvage ou Cyrano. Dans 10 jours, il sera mis à l'honneur à la Cinémathèque française pour une grande rétrospective. L'occasion de le recevoir ce matin. Bonjour Jean-Paul Rapneau.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là.
Merci.
Pourquoi est-ce que le cinéma, pour vous, c'est d'abord une histoire de rythme?
Oui, oui, et en vous écoutant parler de la vitesse de la diction, je pensais qu'effectivement, ce premier film que vous citiez, qui s'appelait il y a longtemps, presque 50, je crois que c'est 50 années, non, à La Vie de Château.
Oui.
Et que je cherchais une actrice, j'en ai vu beaucoup, et finalement, j'ai choisi Catherine Deneuve, et qui m'a dit dès le départ, avant qu'on commence à tourner, vous ne m'en voudrez pas, mais vous allez trouver que je parle trop vite. C'est que je ne peux pas faire autrement, je parle très vite. Je suis d'une famille de 3 filles, et à table, c'est celle qui parlait le plus tôt et le plus vite qui avait la parole pour commencer. Et en fait, moi, ça ne m'a pas gêné du tout. Au contraire, j'ai dit, mais allez-y, c'est ce que... Et au fond, elle a donné un peu le ton, le rythme de ce que je cherchais. Et en fait, elle a... Et celles qui lui ont succédé dans mes films, au fond, se sentent un peu inspirées de cela. Ou...
Vous êtes en train de nous dire, Jean-Paul Rapneau, que sans Catherine, votre cinéma n'aurait pas été le même.
Et il aurait peut-être été plus lent. je m'y serais mis, finalement. Mais... le rythme est pour moi capital avant tout.
Et j'ai l'impression chez vous que ça renvoie à ces screwball comedies dont je parlais tout à l'heure aux États-Unis. Quels films, quelles scènes vous viennent immédiatement à l'esprit?
Vous citiez Rosalind Russell. Elle est peut-être moins connue que les autres, Claudette Colbert, Catherine Hepburn. Mais en tout cas, c'est championne du monde sur la.
Oui.
Et il y a un film qui s'appelait Is Girl Friday, de Howard Hawks. Et Howard Hawks, je crois que ça vaut vraiment la peine de revoir ce film, La Dame du Vendredi, c'est ça. Et Howard Hawks chronométrait les prises et disait que là, elle pouvait peut-être le faire en 3 secondes de mieux. Bah, alors on essaye.
Mais c'était la championne du monde, en fait,
championne
du parler vite.
Oui, oui, oui.
Et c'est ce qui faisait d'elle une grande actrice à l'époque. Qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un acteur vous inspire, en fin de compte, Jean-Paul Rapneau? Vous qui avez quand même fait tourner les plus grands de mon temps à Depardieu, en passant par Belmondo, Adjani, Deneuve ou Binoche?
Écoutez, il faut que je les aime. Il faut que je tombe amoureux. Il faut être amoureux des acteurs et des actrices. On commence par les actrices. Mais les acteurs, on les aime aussi.
Vous êtes tombé amoureux de Gérard Depardieu?
Écoutez, ça a été mon frère pendant ce film. Ça a été mon frère. J'en ai un, je ne l'ai plus, mais je l'aimais profondément. Gérard, il y a longtemps que je n'ai pas vu. Je vais le revoir au moment de cette restauration de Cyrano dans quelques jours, quelques temps. Mais je l'aime profondément. Avec l'âge que j'ai, ce sont mes enfants. Voilà.
Et te sauve pas! J'ai besoin de toi pour ma noce!
Quoi encore? Tu l'as ton divorce?
Il est à l'eau, on n'en parle plus! Allez, tiens!
Ah non, mais ça va pas? Vous êtes complètement fou? J'ai quand même pas fait tout ça pour retourner là-bas.
Et moi, j'ai pas fait tout ça pour aller me balader à Saint-Domingue.
Bon, alors si c'est comme ça, je reste.
Quoi, ici?
Oui, ici. On est très bien, non?
Je suis très bien. Et je suis très bien parce que je suis tout seul, c'est clair?
Tu nous as tous embobinés, hein, maman, grand-père, dans ta lettre. Mais moi, je m'arrête pas.
Mais qu'est-ce que tu racontes?
Je raconte ce qui s'est passé il y a 15 ans à Montpellier. Tu as oublié?
Mais tais-toi, tu ne sais rien.
Tu sais tout.
Mais non, tu es trop petite.
Maman m'a tout dit.
Tu es blessé, Jérôme? Tu es blessé, tu as mal?
Non, non, ça n'a rien, je me suis cogné en entrant.
Oui! Marie, où es-tu?
Vous parlez comme un officier!
Je suis colonel!
Colonel? Ça existe, colonel de votre âge!
Oui, en Italie!
Je bondis, front baissé!
Et on va!
Et je passe! J'en estomac deux! J'en empale un tout vif! Quelqu'un m'ajuste, paf! Et je riposte!
Pif!
Tonnerre! Sortez tous!
On a dit tant d'horreurs sur vous autour de cette table.
Tu es froide et tu n'as pas de cœur. Tu es comme de la glace, dure et coupante. Tu es le contraire d'une femme.
Mais alors qu'est-ce qu'on fait?
On reconnaît ce rythme inimitable et ces grandes voix du cinéma français dans vos films, Jean-Paul Rapneau. Pour autant, est-ce qu'il y a des regrets, des gens que vous auriez aimé faire tourner, avec qui ça s'est jamais fait ou avec qui ça aurait pu se faire? Mais finalement, non.
Oh là, en France, oui, en France, évidemment, nous vivons en France.
En France ou aux États-Unis ou ailleurs,
non,
d'ailleurs.
Non, mais en France. Voilà que je ne saurais pas. Il en était question plusieurs fois de faire en anglais, mais je ne saurais pas si c'est juste ou pas, quoi. Voilà. À cette vitesse-là, on vient d'entendre vraiment. C'est frappant. Tout le monde. Quand je disais que Catherine Deneuve avait donné le là. Mais on entend Isabelle Adjani dans la foulée,
oui,
et elle est dans la roue. Ils sont collés dans la roue de Catherine.
Mais est-ce qu'il y a des acteurs que vous auriez aimé faire tourner?
Bah, j'ai regretté que... attendez...
Ah bon, vous n'êtes pas obligé, si ça se trouve,
non,
vous avez étonné tout le monde.
Enfin non, mais il y a des filles qui ont refusé.
Oh.
Oui, c'est ça. Donc je ne veux pas dire leur nom.
Ah bah non, ne dites pas, ça serait malheureux quand même. Ouais. N'empêche, on parlait de rythme tout à l'heure. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de 50 ans, vous avez assez peu réalisé, somme toute, Jean-Paul Rapneau. Qu'est-ce qui vous prend autant de temps entre chaque film?
Eh bien, alors, c'est la question traditionnelle. Mais, enfin, oui, non, mais il faut bien le dire. Et moi-même, je continue à dire, mais je ne sais pas. Enfin, si, je sais quand même que chaque film est comme une... Enfin, j'ai comme une mini-vie, ça devient pour moi tellement... Enfin, je ne peux tourner que quand le film est devenu pour moi vraiment comme une question de vie ou de mort. Si je ne tourne pas, je tombe. Mais quand le film se termine, ben je suis, oui, ça, comme un naufragé sur la plage. C'est-à-dire que le bateau s'en va, et qu'est-ce que je vais faire? Et je n'ai aucune idée. Je n'ai jamais un film d'avance. J'admire ceux qui le peuvent, bien que ce me soit arrivé, bien que Cyrano, je ne pensais pas le faire, j'étais en train de préparer un autre film que je n'ai finalement pas tourné avec Catherine Deneuve et Isabelle Adjani, les deux championnes du monde et de vitesse, de course à pied aussi, les actrices françaises les plus rapides sur 100 mètres. Et enfin oui. Avec mon temps me disant, dans le sauvage, mais elle pourrait pas courir dans une scène de poursuite. Vous pourriez pas lui demander de courir un peu moins vite, parce que là, je vais pas pouvoir la rattraper. Et alors, à ce moment-là, il faut changer la fin. Là, comment? Ben, puisque...
Ah, c'est vrai.
Oui, non, franchement, oui.
Rassurez-moi, Jean-Paul Rapneau, des films.
Oui.
Il y en aura d'autres.
Ah, bah oui, oui. Enfin, d'autres, je sais pas. Le naufragé s'est relevé, hein. Le naufragé s'est relevé. J'ai déjà équipé un bateau. C'est trop. Enfin, quand
vous en êtes où? Vous en êtes à l'amarrage du bateau?
Oui, non, on est en train de hisser la voile. Non, mais attendez, il y a encore une question de d'acteur. Hein. Il y a effectivement un acteur que j'aime beaucoup, que j'aimerais avoir dans ce film. Lui est prêt. Bon, écoutez, mais par superstition.
Ah bah, vous pouvez pas me le dire. Bon, là, on est dans le secret, Jean-Paul.
Bon,
on peut
d'accord,
pas.
Oui, d'accord.
Celle qui n'est pas dans le secret dans cette émission, peut-être que vous la connaissez, c'est la culture et son actualité extrêmement rapide, plus rapide qu'Isabelle Janier et Catherine Deneuve. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, lundi 15 octobre?
Il y a ici un terrain, un terreau, pour qu'il y ait un grand événement de cinéma.
Lumière plein les yeux, la 10e édition du festival Lumière, créée par Thierry Frémaux à Lyon, s'est ouverte samedi soir, réunissant promesses et invités prestigieux. On y a vu notamment Belmondo, qui a eu le droit à un triomphe, mais aussi le célèbre architecte Renzo Piano, venu présenter les plans rêvés de son projet de cité du cinéma dans les anciennes usines Lumière. Et bien sûr Claude Lelouch, invité d'honneur, qui n'a pas caché son envie de donner une suite à son film culte Itinéraire d'un enfant gâté. Citation. Le canot de Napoléon largue les amarres. Hier, c'est par une immense brèche creusée dans le mur du palais de Chaillot à Paris que le canot impérial a quitté le musée de la Marine pour rejoindre Brest, sa ville d'origine où il sera restauré puis exposé au public dans les ateliers des Capucins à partir de fin 2019. Construit en 1810 à la demande de Napoléon Ier, le navire n'a servi qu'une seule fois pour emmener l'empereur à Anvers. Pépère.
Non, ça dit quoi ? Non, c'est tellement gros, c'est pas habitué.
Vous ne m'avez pas lâché. Samedi soir, le duc de Boulogne, Booba, jouait à domicile, remplissant presque entièrement Paris, la Défense Arena, plus grande salle d'Europe. Quelques jours seulement après sa condamnation à 18 mois de prison avec sursis et 50 000 euros d'amende pour une bagarre à Orly en août, le rappeur français a réuni près de 32 000 spectateurs, devenant le premier artiste français à remplir en solo l'immense salle inaugurée l'année dernière, Isère.
Permettez-moi de le partager avec ma famille. Et surtout, avec tous les gens de la Guadeloupe.
Un Nobel alternatif, mais un Nobel quand même. La très grande écrivaine Maryse Condé a reçu le prix Nobel alternatif de littérature créé par des intellectuels après la décision du comité Nobel de ne pas attribuer de prix en 2018 à cause d'un retentissant scandale sexuel. La récompense vient saluer l'ensemble d'une œuvre consacrée au ravage du colonialisme et à la définition d'un féminisme contemporain. Pour l'occasion, on relie La migration des cœurs, par exemple, l'inoubliable réécriture postcoloniale des Hauts de Hurlevent, paru en 1995 chez Robert Laffont. Et le cinéaste Jean-Paul Rapneau, invité exceptionnel de Boomerang ce matin pour la rétrospective qui lui sera consacrée à partir de mercredi prochain à la Cinémathèque française, dans la foulée de laquelle Cyrano de Bergerac, vous le disiez, ressortira en version restaurée partout en France. La première fois que vous êtes entré dans une salle de cinéma, Jean-Paul, c'était où, c'était quand, c'était pour quel film? Vous vous souvenez?
Ah oui, 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 bien sûr. C'était pour Robin des Bois. Robin des Bois de Michael Curtis. Et... Avec Robin Hood, avec Errol Flynn. Et d'ailleurs pendant, enfin j'étais vraiment gamin. Et d'ailleurs pendant longtemps après, pour moi au fond le cinéma c'était des gens qui se battaient à l'épée, comme dans ce film.
Cela dit, c'est un peu ce que vous avez fait avec des épées, mais avec du langage aussi.
Oui, oui, c'est ça. Mais alors et finalement j'ai fait quand même 3 films, Le Hussard, Cyrano et les mariés de l'an 2, où on se bat à l'épée, bien sûr. Oui, c'est ça.
Est-ce que tout de suite, quand vous avez vu Robin des Bois, vous vous êtes dit que vous vouliez devenir cinéaste?
Oh non, c'est une longue histoire. Non.
Ah bon?
Oh oui.
Ah ben, vous nous connaissez, on va la développer un petit peu cette histoire. Non. Parce que le souci, c'est qu'en fait, vos parents, et surtout votre père, ne l'entendaient pas du tout de cette oreille. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils voulaient pas que vous fassiez du cinéma?
Parce que on était dans un monde ancien. C'était la province, bien évidemment, moi je suis né avant la dernière guerre, la grande aventure, pour moi comme pour tous les garçons de ma génération, la grande aventure de notre enfance, pendant cette guerre en question, je n'avais pas le droit d'aller au cinéma, que moi je n'aimais que le théâtre, et que je pensais d'ailleurs que je deviendrais peut-être acteur de théâtre, et que je jouais dans des pièces là-bas, en Bourgogne. À Auxerre, oui. Et puis voilà que la guerre se termine, enfin. Et voilà que le cinéma américain revient en Europe. Et là, j'ai grandi et j'ai le droit d'aller au cinéma. Et au fond, le cinéma, je le découvre à travers les films américains.
Et ce sont vos parents, finalement, qui vous offrent une caméra. Vous vous souvenez de cette caméra, de comment elle était?
Oh ben, c'était une caméra Paillard Bolex, c'était pas n'importe quoi. Enfin, il me l'offre parce que ça, j'en parlais depuis longtemps et parce que j'avais réussi mon bac. Voilà. Mais alors évidemment, après ça, je ne pensais plus qu'à tout. D'ailleurs, dès le lendemain, j'ai commencé à tourner un film.
Alors, il s'appelait comment ce petit film? Vous vous souvenez?
Oui,
que vous avez
sûr.
Réalisé.
Ben oui, il s'appelait Un garçon bien sage.
Un garçon bien sage.
Ben oui, et je jouais le rôle principal.
Ah, vous étiez le garçon bien sage.
Oui, très
Jean-Paul Rapneau.
Et j'ai même eu, oui, c'est ça. Enfin, c'était ce qu'on appelait le cinéma d'amateur à l'époque.
Mais moi, ça m'intéresse, sage comment, sage timide, sage raisonnable, sage coincé, sage fleur bleue. Quel genre de sage est-ce que vous étiez?
Ben, très. Enfin, non, dans le film, vous voulez dire?
Ah bah, dans le film, dans la vie.
C'était quand même un reflet. un reflet, c'était un garçon trop obéissant, trop sage, qui bougeait pas une oreille. Et puis qui finalement sous l'influence des garçons, des filles qui l'entourent, qu'il ne connaissait pas avant d'ailleurs, casse tout à un moment donné.
En fin de compte, quand est-ce que vous avez cessé d'être sage? Vous vous souvenez?
Avant-hier justement, c'était samedi, non, c'est ça. et il m'est arrivé une drôle de chose. Quelle est la question déjà? Excusez-moi.
Quel âge est-ce que vous avez cessé d'être sage?
Non,
L'acquisition de cette caméra.
Oui, non, à vrai dire. C'est une histoire. Ça me paraît, quand je parle de cette époque lointaine. Je quitte la province pour monter à Paris. J'ai l'impression de raconter un roman de Balzac, quoi. Il y a pas à dire. Paris qui brille au loin. Et je monte là. Enfin, je monte. Oui, pourquoi monter? Ben oui, j'ai habité au sud. Plus au sud. Donc je monte. Et je suis le petit provincial dans une chambre de bonne. Et comme dans un vieux bouquin.
Alors, en même temps, les plus belles aventures, sont les plus beaux romans, non?
Bah oui, c'est ça, oui.
Moi, je propose qu'on se dévergonde un peu, quand même, Jean-Paul, ce matin.
Oui,
qu'on se lâche.
Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Pensons
à une scène de cinéma. Tiens, une scène qui, je le sais, vous parlera forcément. Si je vous dis Rita Hayworth dans Gilda, de Charles Vidor, en 1946, qu'est-ce que vous voyez? Quelle scène iconique de Gilda est-ce que vous voyez immédiatement?
J'essaye de chanter la femme.
Ça m'arrange.
Put the blame on me. Put the blame on me, oui.
On Mame, je crois qu'elle dit.
Elle s'appelle Mame.
Put the blame on Mame. Elle dit ça.
Mame. Alors, oui, c'est ça, en fourreau noir brillant.
Il paraît que vous aviez créé un fan club de Rita Hayworth, j'ai lu ça.
Ah oui, le Hayworth Club, au lycée d'Auxerre. Ah oui.
Ah, le Hayworth Club, carrément. Le Hayworth Club,
j'ai la photo.
Mais comment est-ce qu'on y rentrait?
Je lui avais écrit. D'ailleurs, comment ai-je trouvé son adresse? Je ne sais pas. En tout cas, elle m'avait répondu. Et je sais pas quoi. Bravo pour The Hayworth Club. Je sais pas quoi.
Elle a répondu.
Elle a répondu. Enfin, c'est peut-être sa secrétaire. En tout cas, j'ai la photo.
Ou alors c'est elle. On peut rêver que c'était elle avec son fourreau. Oui. Ah, c'est possible. Hein,
Et ses longs gants noirs. Oui.
Qu'est-ce qu'il fallait faire pour mériter de faire partie de ce club, ce Hayworth Club?
C'est un mensonge. Le Hayworth Club était.
Ah
il y
bon
avait un seul membre.
Ah, c'était vous.
Un président et un membre. Et c'était moi.
Et vous chantiez tout seul dans votre
chambre.
Ah bon, on l'écoute pour l'occasion. Put the blame on Mame, suffisait de le dire. Vous êtes sur France Inter avec Jean-Paul Rapneau. Vous écoutez Boomerang comme un lundi.
When they had the earthquake in San Francisco back in 1906, they said that old Mother Nature. So you can put the blame on Mame, boy. Put the blame on Mame. They once had a shooting up in the Klondike when they got Dan McGrew. Folks were putting the blame on a lady known as you. That's the story went around, but he's the real lowdown. Put the blame on me, boy. Put the blame on me. Mame did a dance called the Hitchy Coo. That's the thing that slew McGrew.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
C'est vrai qu'il fait très sage ce matin, avec sa tête ronde, son crâne nu, ses mains bien posées devant lui, son air appliqué. On dirait un écolier convoqué au tableau pour recevoir le prix de la meilleure dissertation. Il suffit de le regarder d'un peu plus près. Ses yeux qui n'ont rien perdu de l'enthousiasme, de l'innocence de ses 13 ans, avec sa veste en velours et son petit pull marin. Et puis ce casque vissé sur ses oreilles. Jean-Paul Rapneau, invité de Boomerang ce matin pour parler d'une vie de cinéma et d'une œuvre qui frappe aussi par sa dimension épique. Vos films ont toujours quelque chose, en fait, du film d'aventure. Et enfant, de quelles aventures est-ce que vous rêviez, vous ? Vous vous souvenez ?
Oui, alors, je parle du théâtre que j'aimais tant quand je ne connaissais pas le cinéma, mais avant ça, et tout au long, mais surtout avant, j'ai été un grand lecteur. J'ai été un grand lecteur depuis l'enfance, dans le lit, le soir, à la lumière de la petite lampe. Mais enfin, ces romans, alors du 19e, c'est-à-dire du siècle précédent, alors qu'on était, uniquement dans le 20e, alors Jules Verne beaucoup, et Dumas, et les livres qu'on lisait enfant à cette époque.
Des romans d'aventure, précisément. Oui. Et sous l'occupation, parce que vous en parliez tout à l'heure, Jean-Paul Rapneau, quelle enfance, quel souvenir d'enfance est-ce que vous gardez, en fin de compte ?
Alors, effectivement, des années où nous avons été un peu préservés de... préservé des grandes tragédies, mais qu'on a frôlé, c'est très long ces moments, mais qui sont tellement vivants pour moi, les moments où on a compris qu'on était en train de tuer industriellement des gens, enfin que des gens de la ville disparaissaient et qui sont disparus très loin.
Question que je me pose, c'est quel impact, à votre avis, est-ce que ça a eu sur votre cinéma ? Parce que c'est une période que vous avez reconstituée dans Bon Voyage.
Oui, et aussi dans La Vie de Château. Oui. Donc j'ai fait deux films sur cette période-là. La Vie de Château qui raconte 44, Bon Voyage qui raconte 40, c'est-à-dire le début et la fin. Voilà. Et voilà, mais
parce que ça vous a marqué. Vous pensez que ça a marqué votre cinéma aussi?
Oui, bien sûr. Enfin, mon cinéma, je sais pas.
Mais si, parce que
j'ai quand je repense à mes films, au fond, tout a, c'est un peu bébête de le dire, mais tout a quand même ça, tout prend naissance quand même dans ces années si lointaines de l'enfance.
Ce sont des films aussi avec des personnages, j'ai l'impression, qui partent et puis qui réapparaissent soudainement, souvent.
Oui, alors, on va pas reparler de la guerre, j'avais des oncles que j'admirais profondément, qui étaient des grands personnages de ma vie. Et l'un qui est parti, enfin, le grand personnage, il s'appelait Albert, donc, qui est parti en Angleterre, au moment de la guerre. Et qui est revenu en parachutiste avec le béret rouge et la Jeep, qui est arrivé un jour, qui est revenu, c'est l'homme qui revient. Et dans ce film avec Yves Montand qui s'appelait Tout feu tout flamme, l'homme qui a le père, il joue le rôle d'un père qui a disparu et qui revient, c'est le retour du père. Et quand il m'interrogeait, mais enfin il y a bien mieux. Vous avez pensé à quelqu'un, quand même. Enfin, j'ai dit, mais oui, il n'est plus là, hélas. Mais j'aurais aimé que vous connaissiez l'oncle Albert. Parce qu'en fait, vous représentez l'oncle Albert. Ah, je suis Albert. Alors là, ça change tout.
Vous êtes un bon imitateur de Montand.
Oui, enfin, moins bon que le meilleur imitateur de Montand, c'est Jean-Loup Dabadji.
Ah, c'est vrai.
Qui a beaucoup qui a dialogué plusieurs films avec Yves et qui connaissait la manière de moduler chaque mot.
Pour revenir à cet oncle d'Angleterre, justement, ça vous est arrivé à vous d'avoir envie de partir ?
Oui, alors c'est peut-être, oui, mais je ne l'ai jamais fait. C'est peut-être justement l'histoire d'un sédentaire qui rêve de qui parle de ce qu'il aurait, peut-être dû faire et qu'il n'a pas fait. Mais et qui n'a pas fait. Mais j'aime beaucoup les films que j'ai faits.
Moi, voilà, je vous aurais bien vu pourtant partir réaliser un grand film, un grand spectacle à l'américaine pour avoir un film musical. Tiens.
Ah oui. Bien. Alors, ça, c'est idiot de dire ça aussi. J'ai adoré ce et vous, je suis sûr, j'ai adoré cette époque de la grande comédie musicale. J'ai adoré les films de Minelli, et quand je crois qui me demandait l'autre jour, mais quel film vous a rendu vraiment heureux, quel film en tant que spectateur vous a rendu heureux, tout au long de votre vie. Bon, je crois que ceux qui m'ont vraiment rendu heureux, ce sont les comédies musicales. Je regrette d'ailleurs qu'on ne les fasse plus, mais voilà, c'est une autre époque.
Mais vous avez vu La La Land?
Oui. Oui, je me suis dit, j'ai couru. Mais ce garçon, Damien Chazelle, c'est ça, oui.
Oui.
Et, en plus, il est pratiquement français, donc ça nous rame. Et j'ai pas retrouvé vraiment l'enthousiasme que j'avais pour ces grands aînés.
Ah, bah écoutez, oui, on lui dira, c'est notre invité mercredi.
Oh non, alors vous lui. Non, mais d'autant qu'il paraît que son film qui sort, là.
Je le dirai pas, je vous fais la promesse, je dirai pas.
Ah oui, non, ouais. Mais.
À moins qu'il écoute, dans ce cas-là, cauchemar total.
Non, mais peut-être parce que les modèles étaient très hauts, hein, les modèles étaient très hauts.
Oui. On dérape, Jean-Paul. Revenons plutôt à la comédie musicale.
Oh, oui. You wanna have eyes that'll shine. You wanna have grapes on the vine. You want a love that's truly true. You gotta have me go with you. You gotta have me. Why the hold out? Have you so died?
Parce que comme à tous mes invités, Jean-Paul Rapneau, je vous ai demandé de choisir une scène de film que vous aimeriez nous commenter ce matin, et vous avez choisi une scène du film A Star Is Born, une étoile est née, réalisée en 1954, du moins c'est cette version-là que vous avez choisie, par George Cukor, avec Judy Garland et James Mason. Et c'est pas n'importe quelle scène, peut-être que vous pouvez nous la raconter, la scène que vous aimez particulièrement de ce
mais
film.
Mais c'est celle qu'on entend, oui, c'est ça. Parce que j'entends crier elle, Judy Garland, alors que effectivement ça se passe pendant une cérémonie à Hollywood qui est peut-être ressemble beaucoup à une cérémonie des Oscars. C'est-à-dire tout Hollywood est là, toutes ces filles ravissantes en robe du soir, les hommes, je crois, pratiquement en habit. Et voilà que dans cette atmosphère compassée, il y a un spectacle sur scène, avec un grand orchestre, et arrive sur scène, comme ça, on commence à entendre des bruits dans la coulisse, finalement on voit une silhouette qui trébuche, qui arrive, et c'est James Mason, joué par James Mason, et c'est un homme qui est une grande star d'Hollywood, mais complètement ivre, mais ivre mort, et qui veut rentrer sur scène, qui finit par y arriver en boxant les gens qui sont dans la coulisse et qui surgit devant tout Hollywood sur la scène. Et il y a une fille qui est là, une chanteuse, mais qui n'est là un peu que pour faire de la figuration. Et il l'enlace, et c'est Judy Garland. Il danse, il l'oblige à danser. Mais enfin là, il tombe, et il monte, il fait des choses horribles, enfin terribles dans cette atmosphère mondaine qu'on passait. Mais en même temps, alors il y a la divine Judy Garland, la divine avec sa voix divine, qui va devenir plus tard sa femme dans le film. Mais dans cette scène, je me souviens de cette scène, je me souviens du film. Cette scène, peut-être parce que c'est la plus marquante, c'est la première, une sorte de folie qui débarque sur une scène. Pas faite pour ça.
Vous savez qu'il y a une nouvelle version du film qui sort en ce moment.
Oui, avec Lady Gaga.
Vous allez aller le voir.
J'ai peur de briser, de briser le mythe, l'image mythique.
Non, ce qui est intéressant effectivement, c'est que cette histoire est une légende de Hollywood, filmée d'abord par William Wellman en 1937, puis par Cukor en 54, on en parle, puis en 76 avec Barbara Streisand, et puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit ce film pour vous du cinéma, Une étoile est née, A Star Is Born? Pourquoi c'est une légende en fait de cinéma?
Enfin, moi je sais que j'ai vu cela dans mes premiers temps à Paris, quand j'étais encore le petit provincial dans la chambre de bonne. et que j'ai vu ça un soir, je n'ai pas vu en exclusivité, peut-être que j'avais pas les moyens, mais il y avait ce qu'on appelait dans ce temps-là la seconde exclusivité, qui était un peu moins chère. Et les films en seconde exclusivité passaient au Cinéac Terne, un cinéma qui a disparu près de la place des Ternes. Et je me souviens d'avoir vu ça tout seul dans cette grande salle, c'était une grande salle, d'avoir à la fois... Enfin, j'ai après ça marché dans la nuit, je me souviens de cette marche dans la nuit après le film. Peut-être parce qu'on y voyait Hollywood, le mythe d'Hollywood, des tournages, une scène de train. Je crois que j'avais déjà décidé de faire des films. Mais ce jour-là, je me suis dit, mais c'est un métier sacré.
Merci infiniment, Jean-Paul Rapneau, d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que la rétrospective que vous consacrez à la Cinémathèque ouvrira ses portes la semaine prochaine et jusqu'au 2 novembre, mais aussi que l'intégrale de votre filmographie vient de sortir en DVD. On vous retrouvera aussi sur grand écran avec la version restaurée de Cyrano de Bergerac et bien d'autres films qui sortiront dans la foulée en novembre. Tout de suite, les médias. Sonia De Villers, juste après ça.
Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. Pourquoi es-tu parti avant que je te l'apprenne? Le savais-tu déjà? Avais-tu devinez que des dieux se cachaient sous des faces avinées. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. As-tu senti parfois que rien ne finissait et qu'on soit là ou pas, quand même on dit. Et toi qui n'es plus là, c'est comme si tu étais plus immortel que moi, mais je te suis de près.
Immortel, Alain Bachung sur France Inter, et c'est l'heure de Sonia De Villers, les médias.
C'est beau et c'est émouvant d'entendre cette voix. Merci Augustin.
À demain. Salut. Sonia.